Quand José Arcadio le second revint à lui, il était étendu sur le dos dans les ténèbres. Il se rendit compte qu'il roulait dans un interminable et silencieux convoi, qu'il avait les cheveux collés par le sang coagulé et que tous ses os lui faisaient mal. Il se sentit une irrésistible envie de dormir. Il s'apprêtait à sombrer dans le sommeil pendant de nombreuses heures, délivré de toute terreur, de toute horreur, et il se mit à l'aise sur le côté qui le faisait le moins souffrir. Ce n'est qu'alors qu'il découvrit qu'il était couché sur des morts. Hormis le couloir central, il n'y avait pas un espace libre dans tout le wagon. Il avait dû s'écouler plusieurs heures depuis le massacre, car les cadavres avaient la même température que les plâtres en automne, la même consistance d'écume pétrifiée, et ceux qui les avaient chargés dans le wagon avaient pris le temps de les ranger en bon ordre et dans le bon sens, tout comme étaient transportés les régimes de bananes. José Arcadio le second voulut fuir ce cauchemar et se traîna de wagon en wagon dans le sens de la marche du train, et, à la faveur des éclairs qui s'allumaient soudain entre les lattes de bois au passage des villages endormis, il voyait les morts, hommes, les morts, femmes et les morts, enfants qu'on emmenait pour les précipiter à la mer comme des régimes de bananes au rebut. Il ne put reconnaître qu'une femme qui vendait des rafraîchissements sur la place, ainsi que le colonel Gavilan qui tenait encore enroulé autour de la main le ceinturon à boucle d'argent de Morelia avec lequel il avait essayé de se frayer un chemin dans l'affolement général. Lorsqu'il eut atteint le premier wagon, il fit un saut dans les ténèbres et resta étendu dans le fossé jusqu'à ce que le convoi eût fini de passer. C'était le plus long qu'il eût jamais vu. Presque 200 wagons de marchandises, avec une locomotive à chaque bout et une troisième au milieu. Aucune lumière n'y était accrochée, pas même les feux de position rouge et vert, et il se glissait avec une célérité nocturne et feutrée. Sur le toit des wagons, on pouvait voir les formes confuses et sombres des soldats avec leurs mitrailleuses en batterie. Il était minuit passé quand s'abattit une averse torrentielle. José Arcadio le second ignorait où il avait sauté. Mais il savait qu'en marchant en sens contraire à celui du train, il parviendrait à Macondo. Au bout de plus de 3 heures de marche, trempé jusqu'aux os, avec un mal de tête terrible, il put discerner les premières maisons dans la lumière du petit matin. Attiré par l'odeur de café, il pénétra dans une cuisine où se tenait une femme, un enfant dans les bras, penché au-dessus de son fourneau.
« Bonjour, » lui dit-il à bout de force. « Je m'appelle Buendía. José. » Arcadio le second.
Il prononça son nom au complet, en détachant les syllabes pour se convaincre lui-même qu'il était bien en vie. Il eut raison de le faire, car la femme, voyant sur le pas de la porte cette silhouette sale et sinistre, la tête et les vêtements souillés de sang, touchée par la solennité de la mort, avait cru à une apparition. Elle le connaissait. Elle lui apporta une couverture pour qu'il s'en couvrît, tandis que ses vêtements sécheraient au-dessus de l'âtre. Elle lui mit de l'eau à chauffer pour laver sa blessure, qui n'était qu'une simple écorchure, et lui donna un linge propre pour se bander la tête. Puis, elle lui servit une tasse de café sans sucre, comme on lui avait dit que le buvaient les Buendía. Il étendit ses vêtements près du feu. José Arcadio le second attendit pour parler d'avoir fini de boire son café.
« Il devait être au moins 3 000 », murmura-t-il.
« Quoi donc ?»«
Les morts », expliqua-t-il. Ce devait être tous ceux qui se trouvaient à la gare.
La femme le considéra avec pitié. « Il n'y a pas eu de mort par ici, lui dit-elle. Depuis l'époque de ton oncle, le colonel, il ne s'est rien passé à Macondo. » Dans 3 cuisines, où s'arrêta José Arcadio le second avant d'arriver jusque chez lui, on lui répéta la même chose. « Il n'y a pas eu de mort. » Il passa par la petite place de la gare, vit les tables où l'on mangeait les fritures empilées les unes sur les autres, et là non plus ne trouva nulle trace de l'hécatombe. Les rues étaient désertes sous la pluie persistante, et les maisons demeuraient fermées, sans apparence de vie intérieure. Le seul signe humain fut la première sonnerie de cloche appelant à la messe. Il frappa à la porte du colonel Gavilan. Une femme enceinte, qu'il avait maintes fois rencontrée, lui referma la porte au nez.
« Il est parti !» lui dit-elle d'un air effrayé. « Il est retourné dans son pays !»
L'entrée principale du poulailler entouré de barbelés était gardée comme à l'accoutumée par 2 policiers locaux qui avaient l'air changés en statue, sous la pluie, avec leurs casques et leurs cirés. Dans leur petite rue, à l'écart, les noirs antillais chantaient en chœur les psaumes du samedi. José Arcadio le second passa par-dessus la clôture du patio et entra dans la maison par la cuisine. Sainte Sophie de la Piété éleva à peine la voix.
« Que Fernanda ne te voit pas !» lui dit-elle.
« Elle était en train de sortir du lit il y a un moment.
Comme si elle s'acquittait de quelque pacte jamais prononcé, elle conduisit son fils jusqu'à la chambre au pot, lui arrangea le lit de sangle tout branlant de Melquiades, et vers 2 heures de l'après-midi, tandis que Fernanda faisait la sieste, elle lui fit passer par la fenêtre un plateau de nourriture. Aureliano le second avait dormi à la maison, la pluie l'y ayant surpris, et vers 3 heures de l'après-midi, il était encore là à attendre qu'elle cessât. Secrètement informé par Sainte Sophie de la Piété, il rendit alors visite à son frère dans la chambre de Melquiades. Lui non plus ne voulut pas croire à l'histoire du massacre, ni au cauchemar du train chargé de morts qui roulait vers la mer. La veille au soir, on avait lu une adresse spéciale au pays pour informer les gens que les ouvriers s'étaient pliés à l'ordre d'évacuation de la gare et avaient repris le chemin de chez eux en cortège pacifique. Cet avis disait également que les dirigeants syndicaux, avec un sens élevé du patriotisme, avaient réduit leurs revendications à 2 points. Réforme des services médicaux et édification de latrines sur les lieux d'habitation. Plus tard, on fut informé qu'aussitôt que les chefs militaires eurent obtenu l'accord des travailleurs, ils s'empressèrent d'en communiquer le contenu à Mr. Brown, qui ne se contenta pas d'accepter les nouvelles conditions, mais offrit de régaler la population pendant 3 jours afin de célébrer la fin du conflit. Néanmoins, lorsque les militaires lui demandèrent pour quelle date on pouvait annoncer la signature de l'accord, il contempla par la fenêtre le ciel strié d'éclairs et eut un morne geste d'expectative. « Ce sera pour quand la pluie cessera, » dit-il. « Tant qu'elle tombera, toutes nos activités sont suspendues. » Cela faisait 3 mois qu'il ne pleuvait pas, et on était en pleine époque de sécheresse. Mais à peine Mr. Brown eut-il fait part de sa décision que dégringola sur toute la zone bananière l'averse torrentielle qui surprit José Arcadio le second sur le chemin de Macondo. Une semaine plus tard, il pleuvait encore. La version officielle, 1000 fois répétée et rabâchée dans tout le pays par tous les moyens d'information dont avait pu disposer le gouvernement, finit par s'imposer. Il n'y avait pas eu de mort. Les travailleurs satisfaits étaient rentrés avec leurs familles et la compagnie bananière suspendait ses activités jusqu'à ce que la pluie cessât. La loi martiale était maintenue en vigueur pour le cas où il s'avérerait nécessaire de prendre des mesures d'urgence contre la famine consécutive à cette averse interminable. Mais les troupes étaient consignées. Dans la journée, les soldats déambulaient à travers les torrents des rues, les pantalons retroussés jusqu'à mi-jambe, jouant avec les enfants au naufrage. Durant la nuit, après le couvre-feu, ils défonçaient les portes à coups de crosse, sortaient du lit les suspects et les embarquaient pour un voyage sans retour. Il s'agissait toujours de la recherche et de l'extermination des malfaiteurs, assassins, incendiaires et autres rebelles du décret numéro 4, mais les militaires refusaient de l'avouer aux parents même de leurs victimes qui venaient envahir le bureau de l'état-major en quête de nouvelles. « Vous avez sûrement rêvé !» disaient les officiers avec insistance. « À Macondo, il ne s'est rien passé, il ne se passe rien et il ne se passera jamais rien. Ce village est un village heureux. » Ainsi vinrent-ils à bout de l'extermination des responsables syndicaux. Le seul et unique survivant fut José Arcadio le second. Une nuit de février, on entendit parfaitement reconnaissable les coups de crosse contre la porte. Aureliano le second, qui attendait toujours que la pluie cessât pour sortir, s'en vint ouvrir à 6 soldats sous le commandement d'un officier. Dégoûtant de pluie, sans prononcer une parole, ils fouillèrent la maison pièce après pièce, armoire après armoire, des salles jusqu'au grenier. Ursula se réveilla lorsqu'ils firent la lumière dans sa chambre, et tout le temps que dura la perquisition, ne laissa pas échapper un soupir, mais garda ses doigts en croix, tournés vers les soldats et les suivants dans leur va-et-vient. Sainte Sophie de la Piété parvint à avertir José Arcadio le second, qui dormait dans la chambre de Melquiades, mais il comprit qu'il était trop tard pour essayer de fuir. Sainte Sophie de la Piété referma alors la porte, et il passa sa chemise, enfila ses souliers et s'assit sur le lit de camp en attendant leur venue. Au même moment, ils étaient en train de fouiller l'atelier d'orfèvrerie. Après avoir fait ouvrir le cadenas, l'officier avait rapidement balayé la pièce avec sa lanterne, le temps d'apercevoir l'établi et la vitrine, avec les flacons d'acide et les outils toujours à la même place où les avaient laissés leurs propriétaires, et il eut l'air de comprendre que dans cette pièce ne vivait personne. Cependant, il demanda finement à Aureliano le second s'il était orfèvre, et ce dernier lui expliqua qu'il se trouvait dans l'atelier du colonel Aureliano Buendia. « C'est bien ça, » dit l'officier. Et il fit la lumière pour organiser une perquisition si minutieuse que ne purent leur échapper les 18 petits poissons en or qui n'avaient pas été refondus, cachés derrière la rangée de flacons dans leur écuelle en fer blanc. L'officier les examina un à un sur l'établi et dès ce moment s'humanisa tout à fait. « Sauf votre permission, j'aimerais bien en emporter un, » dit-il. Il fut un temps où c'était un signe de reconnaissance de la subversion, mais à présent c'est devenu une relique. L'homme était jeune, presque un adolescent, n'avait rien d'un couard, et bien que cela ne fût pas apparu jusqu'alors, attirait naturellement la sympathie. Aureliano le second lui fit cadeau du petit poisson. L'officier le glissa dans la poche de sa chemise, les yeux brillants comme ceux d'un enfant, et refit tomber les autres dans l'écuelle pour les replacer où il les avait trouvés. « C'est un souvenir qui n'a pas de prix, » dit-il. Le colonel Aureliano Buendia fut un des plus grands hommes de notre histoire. Cette soudaine humanisation ne modifia pourtant en rien son attitude professionnelle. Devant la chambre de Melquiades, qui était de nouveau cadenassée, Sainte Sophie de la Piété misa sur un dernier espoir. « Ça doit faire un siècle que personne ne loge plus dans cette pièce. » L'officier la fit ouvrir, la parcourut du faisceau de sa lampe. Aureliano le second et Sainte Sophie de la Piété aperçurent les yeux moresques de José Arcadio le second au moment où son visage se trouva balayé par la lumière, et ils comprirent qu'à ce moment prenait fin une angoisse et en commençait une autre qui ne trouverait l'apaisement que dans la résignation. Mais l'officier continua d'inspecter la pièce à l'aide de sa lanterne et ne fit montre d'aucun intérêt particulier jusqu'à ce qu'il eût découvert les 62 petits pots de chambre entassés les uns sur les autres dans les armoires. Il fit alors la lumière. José Arcadio le second était assis sur le bord du lit de camp, prêt à bondir hors de la pièce, plus solennel et songeur que jamais. Au fond s'alignaient les étagères avec les livres décousus, les rouleaux de parchemin et, propre et bien rangé, la table de travail. L'encre était encore fraîche dans les encriers. Il y avait dans l'air la même pureté, la même diaphanéité, le même privilège contre la poussière et la destruction qu'avait connu dans son enfance Aureliano le second, et que seul le colonel Aureliano Buendia n'avait pu percevoir. Mais l'officier ne s'intéressa qu'aux pots de chambre. « Combien de personnes vivent sous ce toit ? » demanda-t-il. « 5 ? » L'officier resta naturellement sans comprendre. Son regard s'arrêta sur la zone où Aureliano le second et Sainte Sophie de la Piété continuaient de voir José Arcadio le second, et ce dernier se rendit compte également que le militaire était en train de le fixer sans le voir. Puis, il éteignit et referma la porte. En l'entendant parler aux soldats, Aureliano le second comprit que le jeune militaire venait de voir la chambre avec les mêmes yeux que jadis le colonel Aureliano Buendia. « C'est vrai que personne n'a vécu dans cette chambre depuis au moins un siècle, » dit l'officier à ses soldats. « Il doit même y avoir des couleuvres. » Lorsque la porte se fut refermée, José Arcadio le second eut la certitude que sa guerre était terminée. Bien des années auparavant, le colonel Aureliano Buendia lui avait parlé de la fascination de la guerre et avait essayé d'en témoigner par d'innombrables exemples tirés de sa propre expérience. Il l'avait cru. Mais cette nuit-là, quand les militaires l'eurent regardé sans le voir, alors qu'il songeait à la tension de ces derniers mois, à la vie misérable en prison, à la panique qui avait régné autour de la gare, au train chargé de morts, José Arcadio le second en arriva à la conclusion que le colonel Aureliano Buendia n'avait été rien de plus qu'un cabotin ou qu'un imbécile. Il ne comprenait pas qu'il eût fallu tant de mots pour expliquer ce qu'il avait ressenti à la guerre, si un seul mot pouvait suffire, la peur. Dans la chambre de Melquiades, en revanche, protégé par la lumière surnaturelle, par le bruit de la pluie, par la sensation d'être invisible, il trouva le repos qu'il n'avait connu à aucun moment de sa vie passée, et seul persista en lui la peur d'être enterré vivant. Il s'en ouvrit à Sainte Sophie de la Piété, qui lui apportait ses repas quotidiens, et elle eut promis de tout faire pour rester en vie au-delà de ses propres forces, afin de s'assurer qu'on ne l'enterrerait que mort. Débarrassé de toute crainte, José Arcadio le second se consacra dès lors à lire et à relire maintes fois les parchemins de Melquiades, avec d'autant plus de plaisir qu'il les comprenait moins. Il s'accoutuma au bruit de la pluie qui, au bout de 2 mois, ne fut plus qu'une nouvelle forme de silence. Seul perturbait encore sa solitude les entrées et les sorties de Sainte Sophie de la Piété. Aussi la supplia-t-il de laisser ses repas sur le rebord de la fenêtre et de remettre le cadenas sur la porte. Le reste de la famille l'oublia. Même Fernanda, qui ne vit aucun inconvénient à le laisser là quand elle apprit que les militaires l'avaient vu sans le reconnaître. Au bout de 6 mois de cette retraite, l'armée ayant quitté Macondo, Aureliano le second alla retirer le cadenas, cherchant quelqu'un avec qui bavarder en attendant que la pluie cessât. Dès qu'il eut ouvert la porte, il se sentit assailli par l'odeur pestilentielle des pots de chambre disposés par terre et dont chacun avait de nombreuses fois servi. José Arcadio II, rongé par la pelade, indifférent à ces émanations nauséabondes qui rendaient l'atmosphère irrespirable, continuait à lire et à relire les incompréhensibles parchemins. Il était éclairé par une sorte de rayonnement séraphique. C'est à peine s'il leva les yeux lorsqu'il sentit la porte s'ouvrir, mais ce regard suffit à son frère pour y lire la répétition de l'irréparable destin de leur arrière-grand-père.
« Ils étaient plus de 3000 », se borna à dire José Arcadio II. « Maintenant, je suis sûr que c'était tous ceux qui se trouvaient à la gare.